Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Rassette. Est-ce que vous saviez que ça coûte de l'argent être en situation de handicap? On en discute avec la chercheuse Lucie Dumais et l'activiste Marie-Josée Miniaka. C'est une question qui n'est pas vraiment de mince affaire. En chronique, faut-il déclarer son handicap? Franck Bouchard est là pour nous aider avec cette question. Émilie Bouchard-Labonté de Sportcom aussi met de la lumière sur les arts martiaux adaptés. Et en fin d'émission, on rencontre Yves Dugas, boxeur aveugle, sur Canal M, la radio de Vuzévoix. avec Émilie Bouchard-Labonté qui va nous parler aujourd'hui des arts martiaux adaptés. Bonjour Émilie Bouchard-Labonté.
Bonjour Benoît.
Bonjour. Il faut dire que le samedi 29 avril 2017, s'est tenue la première édition de l'Open International Multisport. Peut-être qu'on pourrait en parler d'emblée, Émilie Bouchard-Labonté.
Oui, tout à fait. Alors, c'était présenté, en fait, cette activité-là, elle était tenue par l'Association de développement des arts martiaux adaptés, ADAMA, qui est basée à Montréal. Ça a été une compétition qui comprenait quatre disciplines adaptées, le karaté, le judo, le jiu-jitsu brésilien et la boxe. Alors, vraiment, des disciplines, des arts martiaux adaptés pour les athlètes avec des limitations.
Et donc, il n'y en a que quatre disciplines qui sont accessibles ou adaptées actuellement, c'est ça, hein?
Bien, pour l'instant, dans les arts martiaux, c'est quand même les arts martiaux les plus populaires, là, qu'on parle karaté, judo, jiu-jitsu, boxe, ça regroupe pas mal d'athlètes là, d'arts martiaux déjà. Là. Alors, pour l'instant, on se concentre sur ces quatre-là.
Okay.
Donc, c'est intéressant parce que les quatre étaient réunis sous un même toit. Des fois, on peut voir des compétitions de para-karaté, entre autres, dans une compétition, de para-judo dans une autre, mais là, les quatre disciplines étaient vraiment réunies sous le même toit. Donc, ça, c'est une première réussite, puisqu'ils ont pu s'unir ensemble pour offrir un tournoi vraiment de qualité.
Bien, et les gens ont certainement apprécié. D'ailleurs, on est passé un peu vite, mais ADAMA, c'est l'organisme qui a déployé cet événement, qui est situé à Montréal, comme vous disiez. Est-ce qu'ils ont un mandat spécifique de promouvoir ces disciplines paralympiques, ces arts martiaux adaptés?
Oui, vraiment, leur but, ADAMA, c'est de promouvoir l'inclusion des personnes qui ont des besoins spécifiques, puis que par le biais des arts martiaux, ils peuvent s'exécuter dans un monde sportif, dans le sport, mais de façon sécuritaire aussi. C'est très important pour eux. Quand on parle de différentes limitations, ça peut être une limitation physique ou des troubles du spectre de l'autisme ou des athlètes avec différentes limitations. Alors pour eux, c'est important de pouvoir évoluer là-dedans dans un contexte très sécuritaire aussi.
Voilà. Et donc, vous le mentionnez, il y a le plaisir dans les parasports, mais la sécurité, bien entendu. Donc, c'est parmi les mandats d'ADAMA. Revenons sur cette compétition du 29 avril dernier, Émilie. Vous le dites, il y a eu concert de quatre disciplines, mais il y avait beaucoup de monde, si je comprends bien.
Une centaine d'athlètes déjà en compétition, en action. C'est vraiment un événement historique, on le disait, pour plusieurs raisons, entre autres parce que bon, ça réunissait quatre et mêmes disciplines sous le même toit, mais aussi puisque, comme c'est une première, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de perdants. Donc, il n'y a que des gagnants à cette compétition-là. Chaque athlète a pu faire un kata, un combat, ou selon les limitations, un circuit d'épreuves vraiment spécialisé pour eux. Et chaque athlète, ensuite, a reçu une médaille à la fin de l'activité. Alors, c'était très intéressant pour ça. Il y a eu beaucoup, tout le monde a terminé avec le sourire, était vraiment fier de leur réalisation, que ce soit par peu importe le chemin qu'ils ont entamé cette journée-là.
Voilà, donc c'est une vraie promotion du sport, là. C'est son caractère unique à cette compétition-là, comme chez Altergo, là, tout le monde est gagnant.
Exactement. Puis en plus, pour pouvoir bonifier à cette compétition-là, que tout le monde était gagnant, il y avait quand même la présence d'athlètes internationaux, dont l'Ontarienne Patricia Wright, qui est championne du monde en para-karaté, qui est venue spécialement de l'Ontario pour parler de son sport et se présenter, rencontrer des jeunes athlètes. Il y avait aussi Jenna Junior aussi, qui est ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, qui a fait aussi une présentation qui a été fortement là, applaudie. Puisqu'il a vraiment raconté son histoire, puis c'est vraiment il y a quand même un parcours assez impressionnant.
Bon, c'était heureux d'entendre ça. Donc, Open International Multisport, ça n'est sûrement pas sa première année, sa seule année plutôt.
C'est un départ, mais c'est pas la fin. C'est sûr qu'on va revoir ce type d'expérience-là pour les athlètes de chez nous qui ont des limitations, qui ont envie de faire des arts martiaux. C'est sûr que ça va être un programme qui va faire des petits. Alors, c'est vraiment à surveiller à ce niveau-là pour les prochains mois, prochaines années, c'est sûr.
Émilie Bouchard-Labonté, en finale de cette entrevue ou de cette chronique, qu'en est-il des arts martiaux aux Jeux olympiques ou plutôt aux Jeux paralympiques?
Le para-taekwondo fera son entrée aux Jeux paralympiques de Tokyo, mais un sport qui est déjà au programme des Jeux paralympiques, c'est le para-judo. Mm-hmm. D'ailleurs, on a deux Québécois qui sont au sein de l'équipe nationale présentement de para-judo. Priscilla Gagné, qui est une athlète de Granby, qui ensuite est déménagée en Ontario, mais qui est de retour à Montréal pour l'entraînement, qui a participé aux Jeux paralympiques à Rio l'été dernier. qui a fini avec une cinquième place. Et Justin Carne aussi, qui est un Montréalais, qui lui aussi a participé aux Jeux paralympiques, lui, à Londres. Pour au niveau de la limitation, la déficience, c'est une déficience visuelle en parajudo qui est aux Jeux paralympiques.
C'est heureux parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas seulement les personnes en fauteuil qui ont des déficiences liées à l'agilité ou à la mobilité. Les personnes aveugles aussi veulent faire du sport et souvent, ça commande des adaptations comme des accommodements, des accompagnements ou des adaptations de ce type-là. Alors, c'est heureux de voir que le judo est maintenant praticable par les personnes aveugles.
Exactement, et je vous confirme que même s'ils ont des déficiences visuelles, ils peuvent nous mettre au tapis n'importe quand, ces deux athlètes-là.
Moi, je ne me mesurerai pas aux athlètes, certainement. Donc, Émilie Bouchard, la bonté, en terminant, est-ce que vous voyez à l'horizon là, pour les Paralympiques des sports intéressants là, qui concernent les arts martiaux? Est-ce que, à part les gens dont vous nous avez parlé, vous voyez autre chose?
Bien, en fait, comme le karaté fait son entrée aussi au programme des Jeux olympiques, mm-hmm. pourquoi pas du para-karaté éventuellement, je suis convaincue qu'il y aurait une grande clientèle pour ce sport-là. Ça serait un troisième sport d'art martial à des Jeux paralympiques. Moi, ça serait mon souhait pour l'avenir. Oui.
Donc, je suis content d'avoir entendu votre souhait, Émilie Bouchard, la bonté. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Sportcom, rappelons-le. Et on vous retrouve le mois prochain.
Merci, bonne journée.
À bientôt. Comment, pourquoi révéler un handicap à un employeur? Ce sont les questions qu'on se pose avec notre chroniqueur Monde du Travail, Franck Bouchard. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Donc, est-ce que on doit ou pas divulguer son handicap au travail, Franck Bouchard?
C'est une question qui est souvent posée au fil des ans, au fil de mes années dans le milieu, c'est souvent revenu comme sujet. Mm-hmm. Est-ce qu'on doit ou pas? Il y a des situations où on doit le faire. Il y a des situations où il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Jusqu'à quel point j'ai besoin d'en parler à mon employeur?
J'adore ça comme réponse, c'est oui et non.
Non. Parce qu'effectivement, chaque personne peut être un cas unique dans le contexte, évidemment, dans le contexte de l'emploi, de l'employeur, du type d'emploi qu'elle occupe, du degré peut-être de handicap que la personne a, est-ce que ça vient ou non en conflit, si je pourrais dire, en contradiction avec l'emploi dans ce contexte-là, jusqu'où c'est nécessaire d'en parler. C'est pour ça que on ne peut pas apporter une réponse tranchée, oui, il faut en parler ou non, il ne faut pas en parler. C'est toujours un peu des cas uniques, il faut toujours se questionner pourquoi je devrais en parler, c'est quand le moment d'en parler. C'est sûr qu'il y a des choses, évidemment, si la personne, par exemple, c'est une personne en fauteuil ou une personne sourde, il y a un moment donné où on peut pas, il faut en parler parce qu'il va avoir des besoins d'accommodement.
Ben ouais.
Peut-être pas nécessairement au moment où on postule dans l'emploi, peut-être pas dans la lettre ou dans le formulaire d'emploi qu'on va remplir.
C'est sauf
pas
si c'est une politique d'accès à l'égalité.
J'allais
par
en parler effectivement plus tard. Ça, c'est effectivement, là, c'est peut-être plus pertinent d'en parler, mais je vais en parler tout à l'heure okay. de cet aspect-là.
Donc, les employeurs doivent-ils le savoir? Est-ce qu'il y a des situations où l'employeur doit le savoir?
Il doit y avoir des situations où l'employeur, c'est mieux de le savoir. Évidemment, lorsqu'il y a un besoin d'accommodement qui doit être mis en place pour la personne. Donc, mm-hmm. c'est certain qu'à ce moment-là, la personne doit signaler son besoin d'accommodement. Et ce besoin-là doit être en lien, évidemment, avec la nature de l'emploi à faire. Si j'ai une personne qui a une déficience visuelle, j'ai besoin de consulter un ordinateur, ça fait partie de mon emploi, c'est le cœur de mon emploi, je dois lire des documents à l'écran, etc. C'est évident qu'à ce moment-là, je dois signaler à l'employeur, ben, écoutez, moi, je suis parfaitement en mesure de lire les documents en autant qu'on me fournisse où je peux même l'apporter moi-même, un logiciel de grossissement de caractère, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est ça qu'on le signale. On le signale, je pense, au moment de l'entrevue. À ce moment-là, pas nécessairement besoin de le signaler dès le départ, mais au moment de l'entrevue, de toute façon, si la personne a une déficience visuelle, je pense qu'elle le signale même au moment où elle dit « on m'appelle en entrevue, j'aimerais vous signaler, on a discuté, il a pu avoir un échange, j'aimerais vous signaler que j'ai une déficience visuelle, ce n'est pas un obstacle pour faire l'emploi. Si on m'appelle, si la personne est appelée, c'est parce que sur son CV, c'est intéressant en termes de compétences, donc il faut tabler là-dessus, mais il faut quand même le signaler à ce moment-là. Si la personne, sa déficience n'est pas un obstacle pour faire l'emploi, ce n'est pas nécessaire d'en parler. Une personne qui a une problématique de santé mentale, s'il n'y a pas d'obstacle, par exemple, ça ne se voit pas. Donc, beaucoup de personnes ont des handicaps non visibles. Donc, c'est évident, ce n'est pas nécessaire d'en parler. S'il n'y a pas d'obstacle par rapport à l'emploi, je reviens donc à la personne qui a une problème de santé mentale, pardon. Si l'emploi qu'elle va faire ne pose pas de problème par rapport à sa situation, je ne sais pas, elle a de la misère à vivre des situations stressantes. S'il n'y a pas ça dans l'emploi, ce n'est pas nécessaire d'en parler. Si, par rapport aux horaires, la fatigabilité peut-être ou la prise de médicaments peut avoir des influences là-dessus, si ce n'est pas un obstacle par rapport aux horaires ou à la fatigabilité, c'est pas nécessaire d'aborder la question avec l'employeur. Ça peut être nécessaire quand il y a vraiment une possibilité d'obstacle et qu'à ce moment-là, il y a peut-être un accommodement qui sera nécessaire. Faut pas jouer à la cachette.
J'ai une colle pour vous. Faut pas jouer à la cachette. Je veux bien... j'entends ça de vous, mais si une personne, par exemple, a un trouble de l'attention puis qu'elle travaille en communication, par hasard... Qu'est-ce que vous recommandez à ce moment-là? Est-ce que en entrevue, le dire, c'est pas risqué? Parce que il n'y a pas facilement de ressources ou d'accommodement pour ce qu'on appelle les clientèles émergentes. Donc, qu'est-ce que vous recommandez là-dedans?
À ce niveau-là, effectivement, c'est pour ça que je disais que tantôt, c'est pas toujours facile de trancher, effectivement, si c'est nécessaire ou non d'en parler. J'aurais tendance à dire... Vraiment analyser la situation de l'emploi. Est-ce que mon trouble de l'attention va être vraiment un obstacle important? Ou est-ce que j'ai moi-même des ressources peut-être pour contrôler mon environnement par rapport à l'organisation de mon travail ou autre, ou les horaires?
Oui, parce qu'on peut présenter ça comme « j'ai besoin pour m'organiser de ces méthodes-là ».
Et à ce moment-là, c'est de dialoguer avec l'employeur et de lui faire comprendre que c'est pas un... situation qui va empêcher la personne de faire son emploi, peut-être de manière un peu différente de la personne, de l'autre personne à côté qui fait le même emploi ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de rassurer l'employeur par rapport à ses capacités à être en mesure de faire l'emploi avec l'accommodement que l'employeur peut mettre en place ou qu'on peut aider l'employeur à mettre en place aussi. Parce que je pense que les mesures d'accommodement, c'est un travail qui doit se faire à deux avec la personne qui souvent est la première personne à bien connaître sa situation et l'employeur qui peut-être être moins accoutumé, si vous permettez l'expression, de mettre en place des accommodements, donc c'est d'accompagner. Mais c'est certain qu'à la base, il faut quand même qu'il y ait, et il ne faut pas jouer à l'autruche, il faut quand même qu'il y ait une certaine ouverture de la part de l'employeur aussi par rapport à ça.
Et on comprend pourquoi les craintes. De toute façon, malheureusement, ça peut être un bon indicateur que c'est peut-être pas l'employeur pour nous s'il est vraiment fermé.
S'il est vraiment fermé. Et il ne faut pas jouer à l'autruche, il y a des employeurs. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas mieux pas tout de suite ouvrir la porte, sauf pour le cas des employeurs avec équité, on va y venir, d'ouvrir tout de suite la porte parce que on peut tomber sur un employeur qui malheureusement n'a pas cette ouverture-là ou est prêt à dire « OK, moi, j'ai envie d'empocher quelqu'un, non pas parce qu'il a ou non une déficience, mais parce qu'il a des compétences à m'offrir et elle répond à ce que je recherche, cette personne-là. S'il y a des besoins d'accommodement, moi, ce n'est pas un obstacle à ce que je puisse l'embaucher, cette personne-là. »
Bon, j'aime ça entendre ça de votre bouche, mais maintenant, on a peu de temps encore pour la chronique. C'est politique d'accès à l'égalité en emploi ou les politiques d'équité, là, ça dépend où on est, comment on les nomme.
Mais effectivement, bon. Il y a beaucoup d'employeurs qui sont assujettis à ces politiques-là, ces lois-là. Et là, ça vaut la peine de signaler qu'on a un handicap parce que les employeurs, souvent, sont à la recherche de personnes qui ont le profil, évidemment, pour l'emploi, mais qui peuvent aussi correspondre à ce qu'elles recherchent en termes de pouvoir remplir à leurs obligations. Souvent, bon, elles remplissent parce qu'elles ont des obligations légales, mais peut-être aussi parce qu'elles ont une pratique au niveau des ressources humaines de dire, moi, j'aime avoir une représentativité dans mes travailleurs, dans mes employés qui correspondent aussi à la société en général.
Oui, parce que même parfois, il peut avoir une plus-value, je dirais, à l'employé. Absolument. L'employé peut devenir un porte-parole, mieux communiquer les besoins pour le groupe qu'il représente,
exactement,
la diversité. D'ailleurs, j'avais en tête une dame dans le milieu des assurances qui se demandait si elle devait communiquer d'emblée sa situation d'handicap. Donc, peut-être que ça serait plus facile pour un domaine comme celui des assurances.
Ça peut être un domaine. Est-ce que le domaine des assurances a des obligations? Certaines entreprises, oui.
Les plus grandes
ont souvent de l'intérêt et de l'ouverture à embaucher des personnes handicapées. Mm-hmm. Donc, je pense que oui, ça vaut la peine, dans les plus grandes, en tout cas, à tout le moins, parce qu'elles ont ces politiques d'équité en emploi, soit parce qu'elles ont des obligations ou soit parce qu'elles se sont données. Et souvent, elles ont à leur emploi souvent des personnes en situation d'handicap. Donc, je pense pas que ce soit jouer en sa défaveur de manifester, en tout cas, auprès de certains
employeurs. Mais dans tous les cas, c'est bon quand même de faire un peu de recherche en amont, parce que certaines entreprises qui ont déjà des politiques, si c'est le cas, ben là, c'est un go. Sinon, plus de stratégie.
Plus de stratégie et plus de prudence, effectivement.
Bien, Franck Bouchard, merci encore pour cette chronique Monde du travail.
Merci.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Quels sont les coûts supplémentaires liés aux situations de handicap assumées par les personnes handicapées et leurs familles? C'est très important comme question. Il y a même plusieurs études dans le monde anglo-saxon qui ont démontré toutes sortes de choses et aussi un laboratoire ou un centre de recherche québécois, le laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, qui a étudié de près la question. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un constat général, en tout cas. La présence d'une personne en situation de handicap dans une famille est directement reliée à un moins bon revenu. Ça, on remarque ça de par le monde et bien sûr au Québec aussi. Vous allez comprendre donc pourquoi l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, a mandaté des chercheuses en 2012 pour faire la lumière sur ce dossier et donc pour en discuter, d'abord avec nous, Lucie Dumais, professeure et chercheuse à l'École de travail social à l'UQAM. Bonjour, Madame Dumais.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Et Marie-Josée Mignacca, activiste qui a vécu cette situation, qui est avec nous. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien.
Bon, alors, on va s'ajuster un peu au cours de l'entrevue pour être sûr que tout le monde s'entend bien. C'est comme ça qu'on fait à la radio. Et si vous permettez, Madame Dumais, j'aimerais d'abord parler avec Marie-Josée Mignacca. Donc, vous m'entendez bien, tout va bien. Oui. Je m'adresserai d'abord à vous, Marie-Josée, parce que vous avez une vie pleine, bien sûr, mais aussi pleine de dépenses, il faut le dire. Et vous êtes née avec la paralysie cérébrale à une époque où il n'y avait aucun service ni aide pour les personnes dans cette situation. Et c'est souvent vos parents qui ont dû faire du travail, en tout cas au début de votre vie. Parlez-nous un peu de cette époque-là.
Effectivement. Moi, je suis née en 1946. Mm-hmm. Alors, il n'y avait absolument rien. J'étais un enfant prématuré.
Oui.
Alors, dès le jour 1, mes parents ont dû débourser 40 $ pour m'amener à l'hôpital afin d'être hospitalisé. On peut dire qu'un enfant qui naît avec un handicap tel que la paralysie cérébrale, c'est après ma mort, avec les années, qu'elle vivra toujours sur le seuil de la pauvreté. Depuis le jour 1, mes parents ont participé à mon intégration en tant que personne humaine,
ouais,
mais m'ont supporté sur le plan financier.
Ouais.
L'État, ce n'est qu'à une infime partie.
Puis évidemment, c'est encore pire en 1946, mais ce n'est pas terminé encore aujourd'hui.
Ça,
c'est pas simple.
Ça termine jamais. On est toujours financièrement en déficit.
Vous avez dû vous battre beaucoup pour obtenir les services que vous avez parce que vous en avez finalement, malgré tout,
oui.
Des années plus tard et à un âge, je vais pas le dire en honte, on dit jamais l'âge des femmes.
Mais vous pouvez le dire.
Parce je peux
que
le dire.
Pour moi, c'est pas honteux.
Non, pas du tout.
J'aurai 71 ans en juillet.
Oui, et vous êtes toujours une activiste.
D'accord.
Vous avez toujours, vous prenez la parole régulièrement, vous battez toujours.
J'ai pas le choix.
Ouais.
Je me suis impliquée dans toutes les ressources dont j'ai eu besoin.
Oui.
C'est un héritage que j'ai reçu de mes parents. Alors, j'ai suivi ce qu'on m'a enseigné.
Bon.
On a cru en moi et j'ai continué.
Ça, c'est heureux. On a cru en moi et j'ai continué. Et vous vous battez, vous avez la langue déliée. C'est très heureux. Quelques exemples. On va parler plus tard. Vous avez comme dépense très importante l'accompagnement qui est mal reconnu. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. C'est quoi l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap?
Pour les personnes en situation de handicap, l'accompagnement est une ressource indispensable.
Mm-hmm.
C'est très bien de déterminer les besoins de la vie quotidienne, mais lorsque nos préposés ont quitté le domicile,
ouais.
qu'on n'est plus capable de faire certains transferts tout seul ou de mettre notre manteau, la vie sociale en prend un coup.
Ah, c'est ça, c'est elle qui paye le plus, au fond.
Oui.
Mm-hmm.
Et plus que ça, quand je parle de vie sociale, l'OPHQ n'a pas encore statué pour permettre... Moi, quand j'ai eu 65 ans,
mm-hmm.
j'ai appelé l'Office des personnes handicapées. Ils ont un programme d'accompagnateur pour les études.
Mm-hmm.
Moi, je dis, je vais retourner soit au cégep, soit à l'université pour le plaisir,
ouais.
pour créer des contacts, pour apprendre.
Ouais.
C'est une personne très curieuse.
Ouais.
On m'a répondu, ben non, Marie-Josée, tu vas pas retourner aux études, tu veux pas aller chercher un diplôme.
Non.
Mais une personne âgée peut étudier.
Ben voilà, une personne âgée peut étudier toute sa vie. Et c'est sûr que là, c'est pas associé à un travail, mais c'est pour des raisons humaines.
Oui.
Et on ne voulait pas compenser ce moyen-là. On reviendra peut-être à ce qu'il y a à faire, je dirais, politiquement. Mais d'abord, avec nous, on a la chance d'avoir Lucie Dumais, qui est professeure et chercheure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Je suis désolé. J'ai failli faire un impair. Et donc, vous avez travaillé à cette étude qui s'intitule « Identification des coûts supplémentaires généraux liés aux déficiences, incapacités et situations du handicap assumées par les personnes handicapées et leurs familles ». Donc, c'est pour que les personnes puissent le chercher là, sur Internet. Mais avant tout, avant de parler du cœur de l'étude, rappelez-nous qui vous a été confié, ou plutôt le contexte en 2012, avant le début de cette étude.
Bon, écoutez, l'origine, ça remonte quand même à, disons, au moins 20 ans. Mais pour, parce que comme l'a dit Madame Mignacca, ça fait longtemps que des personnes handicapées et leurs associations se battent pour faire reconnaître les dépenses supplémentaires qu'elles ont par rapport à la population qui n'est pas en situation de handicap.
Mm-hmm.
Mais plus proche de nous, la politique du gouvernement du Québec, qui s'appelle « À part entière
mm-hmm. »,
l'a bien signalé. Une de ses 11 priorités, c'est de revoir tout le système de compensation des coûts pour les personnes handicapées.
Mm-hmm.
Alors donc, ça, c'est à l'origine de la demande de l'Office des personnes handicapées, qui au nom, en tout cas, qui est un organisme conseil du gouvernement, et là, l'Office a demandé qu'on fasse une nouvelle étude sur ce sujet-là.
Ben,
et donc, nous sommes venus identifier quels étaient ces coûts supplémentaires généraux.
OK. Parce qu'il y a plusieurs types de coûts. On n'entre pas tout de suite dans les types de coûts.
Mm-hmm.
Mais donc, c'est clair, il y a une pression du mouvement. Le PHQ répond à son plan, sa politique.
Mm-hmm.
Et donc, vous initiez une recherche en 2012.
Oui.
Comment vous avez fait pour trouver l'information, sans entrer dans les dédales méthodologiques?
Écoutez, l'idée, c'est d'abord de demander aux personnes et aux familles elles-mêmes quels sont les dépenses. Mm-hmm. C'est pas forcément le meilleur moyen. Il y a plusieurs moyens qui sont identifiés dans les recherches sur au niveau international. C'est une façon de l'approcher, le problème, c'est une méthode qu'on a utilisée, nous. On est allé donc interviewer des personnes et des familles dans trois régions du Québec qui représentaient aussi différentes catégories socio-économiques, mm-hmm. hein, un petit peu plus riches ou même à des revenus très faibles.
Ah oui, c'est important.
Et aussi avec ou sans enfants.
Mm-hmm.
Alors donc, c'est une variété de ménages et de familles qu'on est allé interroger.
Et donc, passons maintenant à ce que vous avez identifié comme coût. Donc, quand on parle de coûts généraux non garantis, on parle de quel coût exactement?
Bon, alors, si évidemment, il y a une foule de coûts parce que c'est tout à fait relié à la vie en général des personnes bon, et de leur quotidien.
Mm-hmm.
Donc, selon une variété de situations du quotidien, on en a utilisé une douzaine à partir d'autres recherches qui sont faites dans le domaine, là, les habitudes de vie, là, il y en a qui comprendront ça, mais disons qu'on a utilisé à peu près une variété d'une douzaine d'habitudes de vie au quotidien,
mm-hmm.
et sur l'ensemble de ces 12 habitudes de vie, on a retrouvé que justement, tout ce qui concerne l'accompagnement, mais aussi le transport,
oui.
l'accompagnement dans des activités, c'était une source de coûts supplémentaires.
Mm-hmm.
La deuxième, ça concernait tout ce qui a trait à l'habitat, l'habitation, le logement, l'aménagement d'un appartement, d'une maison, etc. Et enfin, il y avait tout ce qui concerne la santé et les soins personnels. Bon, des médicaments, des soins particuliers, tout ça, ce sont des coûts qui parfois sont couverts en partie par des programmes qui existent et parfois ce n'est pas du tout couvert.
Ben
alors
oui.
Ça, c'est à peu près la douzaine, là, c'était les trois grandes catégories qui faisaient, disons, qui faisaient le plus mal au portefeuille des familles et des ménages.
Et peut-être il y a deux éléments là, sur lesquels vous consacrez beaucoup de temps aussi. Vous parlez de ces trois priorités-là, mais le transport et l'habitation, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Madame Miniaka opine, le transport, qu'est-ce que vous avez relevé exactement comme coût supplémentaire ou comme problème, j'oserais dire, économique occasionné par le transport?
Alors, évidemment, c'est tout ce qui concerne... Je vais reprendre ce que Mme Miniaka dit. L'accompagnement.
Oui.
Selon le type d'incapacité qu'on a, on a besoin de différents genres d'accompagnement.
Mm-hmm.
Les personnes qui ont des incapacités sensorielles, ils ont souvent besoin de personnes qui les accompagnent pour leur dire où aller, comment faire, etc.
Passons, aux personnes aveugles.
Voilà, mm-hmm. voilà. Et là, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner.
Oui.
Et ça coûte de l'argent se faire accompagner
oui.
Pour des activités, par exemple. Donc, il faut payer non seulement sa propre entrée, mais l'entrée de la personne qui nous accompagne.
Parce qu'il existe des programmes, mais ce n'est pas toutes les activités ou toutes les sorties ou tous les lieux où c'est gratuit pour les accompagnateurs.
Alors, vous touchez un point très important.
Mm-hmm.
Évidemment, les programmes vont aller, à ce qui est fondamental. Si on a des déplacements à faire pour aller à l'hôpital,
mm-hmm.
ça va souvent être couvert et
oui.
couvert en bonne partie. Mais si on veut...
Mais si on a une vie en santé...
Monde, c'est compliqué, c'est ça.
Voilà.
Mais le loisir, c'est comme si ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça existe, des programmes pour d'accompagnement en loisir, mais disons que...
Pour les personnes qui ne sont pas des jeunes, c'est plus difficile.
Voilà.
Bon. Madame Miniaka veut ajouter quelque chose, si vous permettez.
Je vais vous parler d'une dépense récente que j'ai eue.
Oui.
J'ai mon ami d'enfance qui est décédé.
Ouais.
Alors, pour aller à ses funérailles, ça m'a coûté 100 $.
Oui, voilà.
Puis là, c'est récent. Il n'y a même pas 10 jours.
Et on parle... Vous êtes quand même dans une situation économique très précaire. Le 100 $, c'est beaucoup, là.
C'est beaucoup, étant donné que j'ai maintenant une pension de vieillesse.
Oui.
C'est pas énorme.
Non, c'est sûr. Et donc, on illustre bien là, ce qui se passe. Effectivement, il faut rappeler que les personnes aveugles aussi ont toutes sortes de compensations. On peut lire dans votre étude qu'il est difficile aujourd'hui de vivre sans ordinateur qui relaie toute l'information par la synthèse vocale ou même les tablettes, le téléphone intelligent. Vous mentionnez ça dans l'étude, c'est important de le dire, mais c'est onéreux et si on a le malheur de ne pas avoir d'emploi, c'est très difficile d'accès. Donc, j'encourage les gens à y aller, mais ceci dit, Lucie Dumais, professeure et chercheure à l'École de travail social, 3 ans après cette publication, est-ce qu'il y a des résultats concrets?
Bien, c'est malheureusement, nous sommes en contexte de resserrement des programmes. Hein. On a utilisé le mot austérité assez souvent.
Oui.
Et donc, ça affecte l'ensemble des programmes, évidemment, ce qui concerne les personnes handicapées aussi. Ce qui est dommage, c'est que y aurait des petites solutions à mettre en place.
Allez-y brièvement.
Par exemple, tout ce qui concerne des déductions fiscales ou des bonifications fiscales, ça pourrait être donné à l'ensemble des personnes handicapées plutôt que d'être réservé à des personnes qui ont ont de l'impôt. C'est-à-dire que il y a des mesures actuellement qui semblent favoriser davantage des ménages qui ont déjà certains revenus puis qui peuvent dépenser de l'argent
pour
des services, mais les ménages les plus pauvres n'y ont pas droit.
C'est ça, pour que les gens comprennent bien.
Alors, l'équité, là, la première chose qu'il faudrait essayer de cibler, c'est l'équité entre les personnes handicapées, les ménages de personnes handicapées. Ça, c'est une première chose qu'on a découverte et je pense que ça serait un premier pas à faire pour le gouvernement. Et ensuite, on verra aussi à rehausser pour l'ensemble des personnes handicapées, de tous les ménages de personnes handicapées, qu'il y ait de moins d'écart avec la population qui n'est pas en situation de handicap.
Lucie Dumais, vous avez été éloquente. Équité, c'est votre mot d'ordre et le mot de la fin de votre recherche 3 ans après. On peut la consulter, hein? Rappelons que c'est ça a comme titre... donnez-moi un instant. On va le retrouver, c'est certain.
Vous pouvez aller sur le site du laboratoire. Il y a aussi des résumés et des affiches synthèses. Là,
OK,
avec
bien.
Des petites affiches synthèses. Là. Allez voir ça.
Donc, c'est la REPS, c'est l'acronyme du Laboratoire sur les recherches et les pratiques sociales. Marie-Josée Mignacan.
Est-ce que je peux poser une question, Mme Dumais?
Malheureusement, on est vraiment à la fin. Peut-être que vous pourriez nous indiquer la question, puis en fin d'émission, je vous le dis. Par la suite. Donc, Marie-Josée Mignacan, merci d'avoir été avec nous pour exprimer qu'au fond, ça coûte quelque chose d'être en situation de handicap et on espère plus d'équité.
Merci.
Merci.
À la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois, une chose à la fois. Faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois quand on fait des choses à la fois. Une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps. Quand on court après le temps, y'a rien qui marche. C'est évident, c'est fou quand y'a tant d'affaires à faire et à refaire en même temps. Comme le disait mon père, tant pas faire en si peu. Le temps qui change, c'est pas comme fuyant les pensées, mais c'est pour un peu d'avance que de tester sa patience. L'impatience, c'est une rivière qui pourrait t'emporter. Si courant prend son air, il faut savoir le contrôler. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois qu'on fait des choses à la fois. Une chose à la fois. Pour faire une chose à la fois, bien le faire la première fois. On recommence à chaque fois qu'on fait des choses à la fois. Et faire une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait deux choses à la fois. Et...
avec nous quelqu'un qui cogne dans l'imaginaire et qu'on est très heureux d'accueillir à l'émission, Yves Touga, devenu aveugle, mais surtout devenu boxeur. Bonjour, Yves Touga.
Bonjour.
Bonjour. Avant qu'on fasse le tour du ring ensemble,
oui.
Pour que les gens vous connaissent un peu plus, racontez-nous un peu. En fait, d'abord, il y a eu ce jour où vous avez perdu la vue. Peut-être que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé, puis comment vous avez transformé ça là, avec vos coups de poing?
Un peu, OK, un historique. Bon, bien, regarde, j'ai perdu la vue à 18 ans. Ça a été un peu progressif, là, ouais. De 3 à 6 mois. J'ai une maladie, la neuropathie héréditaire de Leber qu'on appelle. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai perdu la vue, c'est ça, à peu près à 18 ans.
Mm-hmm.
Après ça, j'ai commencé, j'avais déjà commencé un peu à m'entraîner. Là, ça a été plus régulier, là, 5-6 jours par semaine. La boxe, ça fait à peu près un an que j'en fais, là, à deux jours par semaine. Mais tu sais, je fais ça pour le loisir, évidemment, là, c'est pas pour un combat éventuel ou quoi que ce soit. Je fais ça pour le plaisir de l'entraînement, l'entraînement de la boxe. J'ai toujours aimé ça, mais là, je l'ai mis un peu en pratique.
Mais ça tient en forme, en tout cas.
Oui, ça met en forme, mais tu sais, je veux dire, ça faisait déjà un bout de temps que je m'entraînais dans les poids, là, au gym, là, au Pro Gym ici, dans Hochelaga-Maisonneuve.
Oui. Mais on me dit aussi que vous êtes tourné, pas juste pour donner un petit crochet, là, mais pour aider le monde. De quoi on parle quand on me dit ça?
Aider le monde. Il y a plusieurs choses là, que regarde, j'ai fait quelques petites conférences l'automne passé. Je suis allé dans une école, l'école Amos, dans Montréal-Nord. C'est une école, les jeunes, un problème de comportement, un problème d'apprentissage. Ouais. Je suis allé donner une petite présentation un peu de mon historique, mon trajet de vie, tout ça. Je suis allé cet automne, je suis allé ce printemps, voilà pas longtemps. C'est un peu ça qui est arrivé. Je suis allé un peu aussi, là, il y a quelques années, dans un petit centre jeunesse sur la rive sud de Montréal, à Chambly. C'est un petit peu un parcours de vie, expliquer mon histoire, un peu comment ça marche, puis essayer de démotiver un peu. Puis c'est un peu comme ça, puis juste peut-être au jour le jour, ce que je fais ici dans mon gym, au Pro Gym, juste de m'entraîner comme je m'entraîne à l'intérieur du gym, la boxe pour moi, puis tout ça. Je pense que ça en motive quelques-uns juste à faire ce que je fais au quotidien, juste à vivre ma vie au quotidien. Ça, mm-hmm. Je pense que ça motive les gens, là.
Oui. Puis vous avez eu plusieurs détours, c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Bon, évidemment, à 18 ans, comme vous le dites, vous aviez vu jusque-là, mais vous devenez aveugle, mais aussi vous avez eu beaucoup de... comment je pourrais dire, de périple dans votre vie. Vous avez exercé d'autres métiers aussi. Vous avez été, entre autres, massothérapeute?
Je suis massothérapeute.
Ah, vous l'êtes, OK.
Oui, je suis massothérapeute. J'ai étudié en 2003-2004. J'ai gradué en 2004.
Mm-hmm.
Je suis arrivé au Pro Gym Serge Moreau ici en 2008. Voyez-vous, là, depuis 2008, là, j'ai mon bureau ici au Pro Gym. Puis je suis massothérapeute. Là, je travaille du lundi au vendredi. C'est ce que je fais. C'est mon métier là, que j'exerce en ce moment-là.
Mm-hmm. Ouais. Bon. OK. Donc, vous cumulez la boxe, la massothérapie, de plus en plus les conférences. C'est heureux tout ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Y a-t-il un autre détour dans votre vie encore qu'on ne connaît pas?
Ben, on connaît pas. Je veux dire, au jour le jour, j'habite tout seul. C'est sûr que j'ai une copine, mais on n'habite pas ensemble. Mais on s'entraîne ensemble, on fait des trucs ensemble et
tout
ça.
Oui.
Au jour le jour, je m'entraîne, c'est ça. Je m'entraîne beaucoup aussi les poids dans le gym.
Mm-hmm.
Mais je veux dire, c'est sûr que depuis 18 ans, il y a eu beaucoup de choses. Parce que quand j'ai perdu la vue au début, juste de réapprendre à marcher une canne blanche, à lire le braille, programme de réhabilitation, j'ai fait un petit cours dans une école là, comme agent de service à la clientèle. Ça, c'est avant d'étudier en massothérapie. J'ai travaillé dans une banque pendant de 2000 à 2004. J'ai été comme agent de service à la clientèle. C'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, OK, travailler du 9 à 5 assis sur une chaise, je n'étais pas capable.
Fait
que je suis retourné étudier dans d'autres choses qui étaient connexes déjà à l'entraînement que je faisais depuis 18 ans.
Mm-hmm.
Fait que tout ça mélangé ensemble, j'ai fait un paquet de trucs. Là. J'ai fait une petite compétition ici avec l'aide de Serge Moreau, Roger Léveillé, une compétition de culturiste en 2006.
Ah oui, vous avez été culturiste aussi? Oui,
j'ai fait une petite compétition, là, on appelle ça la Coupe Pro Gym. J'ai fait réaliser ça en 2006, un petit défi challenge personnel. Avec l'aide d'eux autres ici. Puis ça a été comme... C'est un gars de défi, un gars de challenge. J'ai fait le défi Vision Mira en 2000-2001. 2001, j'ai gagné la course. Ça, c'est une course d'auto, je ne sais pas si le monde connaît, c'est une course d'auto pour ramasser des fonds pour la Fondation Mira. un paquet de trucs comme ça.
Écoutez,
que...
vous êtes vraiment quelqu'un d'inspirant. En fait, vous cognez partout. Et donc, ouais. Est-ce que... Parce que dans Urbania, d'ailleurs, vous avez juste à repérer Yves Touga, massothérapeute aveugle. Il y a un bel article sur vous. J'invite les gens à aller entendre ou lire ça, tout dépendant.
Oui.
Et est-ce que vous avez, en terminant, un message aux jeunes qu'on pourrait comprendre, nous aussi, hein, les moins jeunes?
Mais tu sais, beaucoup le monde, quand j'entends le monde un peu dire « faudrait-je fasse ci, faudrait-je fasse ça, ah, oh, je devrais faire ci, je devrais faire ça », tu sais, un peu arrêter de dire « faudrait, je devrais », tu sais, puis juste aller ou essayer au moindre de faire ce qu'ils veulent faire, puis dans le pire des cas, ça va marcher, ça va pas marcher, mais au moins d'essayer dans la vie, puis au moins de continuer à toujours un peu avancer, puis peu importe les difficultés, c'est sûr que la vie est belle, quand on m'entend parler, ah, oh, je suis positif, tu sais, mais tu sais, je suis humain comme tout le monde, puis des fois, j'ai mes moments qui sont moins ensoleillés, mais tu sais, la vie est belle, puis la vie vaut la peine d'être vécue comme un peu à 100 000 à l'heure parce que ça passe tellement vite, puis peu importe l'handicap ou les difficultés ou les obstacles que le monde rencontre, ben faut toujours continuer à avancer. Ça, c'est un peu ma...
C'est votre leitmotiv, c'est ça que vous dites.
Oui.
Eh bien, écoutez, c'est dommage que vous ayez parlé de soleil parce que les gens ne vivent pas beaucoup au Québec en ce moment, mais supposons qu'il y a... Il y a eu du soleil grâce à vous aujourd'hui.
Ah, bien, je suis content. Puis à tout le monde, ne lâchez pas. Là.
Génial. Merci, Yves Touga.
Merci à vous.
Depuis qu'on a lâché prise, froidure de novembre, elle nous permet de nous coller plus ensemble sous une couette, tout nu pas de babette. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis quatre murs, ce sera la joie dans notre cour. On apprécie en partant, ben on se dit qu'on l'aura dans le dos en revenant, ou vice versa, on se bat plus avec ça. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis quatre murs, ce sera la joie dans notre cour. Se plaît pas quand il mouille, c'est ça qui fait pousser nos plants de citrouille. L'été, on est heureux quand il fait très chaud, car le soleil réchauffe nos cœurs d'artichaut. Comme je t'aime, veux-tu que l'on s'aime? Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et
cette émission tire à sa fin. Pour avoir plus d'informations sur les intervenants et intervenantes qui sont venus ici, n'hésitez pas à visiter la page de l'émission Accès libre, repérable sur canalm.vusezvoix.com. Il y avait beaucoup de monde. Je veux juste rajouter aux gens qui nous écoutent que vous allez en apprendre plus sur les coûts liés au handicap, mais peut-être aussi ce qu'il faut en faire, c'est-à-dire réclamer plus d'équité. Enfin, on le dit comme ça. Et au passage, je remercie Marie-Josée Miniaka et aussi cette chercheuse Lucie Dumais, très engagée, s'il en est. Nos chroniqueurs ont été géniaux, comme d'habitude. Et merci à Yves Touga. L'émission est impossible sans Christiane Campagna, Jean-Sébastien Laliberté, Sylvie Rivard, qui ne soutiennent l'émission, sinon ça n'aurait pas de sens. Et Benoît Racette essaie avec vous de continuer à trouver du sens pour qu'un jour, on fasse ensemble un véritable accès libre.